RCF.
Dernier volet de notre série d'entretiens avec vous, Christophe Théobald. Dieu parle-t-il au monde? Nous avançons dans ce cheminement. Alors nous avons dit que l'Église justement permet un dialogue entre des hommes qui ont fait l'expérience de Dieu et puis une société qui apporte des questions. On va y revenir dans un instant. Mais je reviens sur une expression que vous employez dans votre livre, conversation spirituelle. Vous dites que les chrétiens peuvent rentrer en conversation spirituelle avec le monde qui aujourd'hui est en quête de sens. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement?
Je pense qu'il faut comprendre ça d'une manière extrêmement concrète. C'est-à-dire, nous tous, nous sommes toujours tentés de séparer, je dirais, le spirituel et le religieux, et notre vie quotidienne. Mais je dirais, des gens qui travaillent, qui à midi sortent du bureau, qui avec des collègues vont manger, la maman qui cherche son enfant à la porte de l'école, qui passe du temps avec les d'autres mamans ou pères. On a multiples exemples, l'enseignant, l'instit qui sort de la classe, qui voit tout d'un coup un enfant qui est triste, etc. Nous vivons quotidiennement des lieux où nous pouvons nous intéresser à autrui, réellement. Sortir de nous-mêmes, comme dit le pape François, et nous intéresser à lui. Et ça, c'est le début de toute conversation spirituelle. Spirituelle veut dire ici, il faut peut-être le préciser, c'est ce que vous attendez, je pense.
Oui.
Spirituel veut dire ici, au fond, une qualité de vie d'abord. Nous croyons comme chrétiens que l'Esprit Saint est universellement répandu sur toute chair, comme dit la Bible. Donc, en chaque être humain, l'Esprit Saint est présent.
Donc, c'est susciter chez l'autre l'esprit, la vie qui est là.
Voilà. C'est le début. Et ça peut se faire par rapport à toute question profane humaine. Il y a toujours des versants techniques dans les questions, mais il s'agit aussi de problèmes vitaux qu'un être humain voudrait bien exprimer. Et la conversation spirituelle commence par là, jusqu'à ce que l'autre est étonné subitement et se demande « Mais pourquoi vous êtes si généreux? Pourquoi vous vous intéressez à moi ?» Et du coup, une étape supplémentaire, peut-être plus explicite, peut devenir possible.
Et c'est là où, justement, Dieu parle aux êtres humains aujourd'hui. C'est dans ces petites conversations.
Exactement. Comme en Galilée, dans ces multiples rencontres entre Jésus de Nazareth et les siens, et les gens qu'il a rencontrés à l'improviste.
D'abord s'intéresser à l'autre, à ce qui le préoccupe, et puis les affaires, entre guillemets, de kérigme, d'annonce de la foi, ça vient dans un deuxième temps?
Ça peut venir dans un deuxième temps, je veux dire d'une manière gratuite. L'Église va annoncer publiquement l'Évangile, je ne nie pas cela, au contraire. Mais je veux dire, ces multiples rencontres, c'est des occasions de gratuité, où deux êtres, trois êtres humains se rencontrent. On appelle ça parfois aussi première annonce, où subitement se présente une faille où une parole évangélique peut être dite et qui met l'autre debout, qui le met en haute, qui le fait vivre.
Oui, elle ne sera pas plaquée, cette parole.
Exactement,
elle arrivera sur un terrain.
Elle arrive sur un terrain où elle est déjà présente d'une certaine manière.
Alors, le temps passe vite, mais pour clore le dialogue, j'aimerais qu'on regarde ensemble les grands défis que le monde doit relever, parce que il y a l'écologie, il y a la politique, il y a l'économie, et on se dit, mais Dieu là-dedans, comment nous parle-t-il? Que nous dit-il? Alors, il y a des gens qui vont ouvrir leur Bible, se dire, on va trouver des réponses.
Oui, on a de nouveau le problème du fondamentalisme, vous avez raison. Oui.
Pour trouver des repères dans un monde vacillant. Est-ce que c'est une solution, ça?
Je ne pense pas. C'est-à-dire, l'Église a toujours lu les signes des temps. Vous voyez, je vais introduire maintenant un terme nouveau. Mais le Concile Vatican II, pour la première fois dans la Constitution pastorale, a fait un lien entre la lecture des Écritures et ce qui arrive dans notre monde. Et le Concile a utilisé trois mots. Événement, exigence, requête ou attente. Et ce sont les trois mots qui balisent, au fond, notre écoute de la parole de Dieu de nouveau. Il y a des événements qui se produisent. Ça peuvent être des très grands événements politiques, ça peut être un événement négatif terrible, un tsunami.
Comme le 13 novembre aussi. Hein.
Ou le 13 novembre. Un événement. Alors, on enregistre un événement. Et voyez, c'est là déjà où commence d'une certaine manière quelque chose de spirituel. Comment on va l'enregistrer ? Avec la peur, qui est légitime, avec une grande sensibilité, une empathie, une compassion pour ceux qui sont tombés, pour leurs proches, une sympathie pour les médecins, etc. Vous voyez, l'intériorité face aux événements est suscitée. Et ça, c'est la première expérience d'écoute de Dieu dans notre intériorité. Ensuite, exigence. Les compétences sont demandées. La raison humaine va intervenir. Et ça fait partie de la parole de Dieu aussi.
Ça veut dire qu'est-ce que toi, tu peux faire avec tes talents dans cette situation donnée?
Exactement. Voilà. Qu'est-ce que tu peux faire? Comment interpréter cette situation? L'État va intervenir, les États vont intervenir. Le tsunami, par exemple, au Japon, a produit de nouveau la question écologique. Il a suscité cette question. L'énergie atomique, est-ce que c'est la seule, la meilleure? Les problèmes de sécurité, il faut beaucoup de compétences. Donc ça, c'est les exigences. Et le troisième mot, c'est les requêtes, l'utopie. Et c'est là de nouveau où intervient la parole de Dieu. Elle nous propose, avec Isaïe, avec l'Apocalypse de Jean, avec beaucoup d'autres textes, une vision de l'humanité. C'est-à-dire une vision de paix et une vision de justice, de paix entre les êtres humains, de justice et paix entre les êtres humains et la création.
Christophe Théobald, vous parliez de l'utopie. Alors, le christianisme, c'est une utopie? Qu'est-ce que vous voulez dire, là?
C'est pas uniquement une utopie, mais c'est aussi une utopie. C'est-à-dire quelque chose, Thomas More, qui parle d'utopia, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui n'a pas encore lieu, qu'on peut imaginer et qu'on espère de toutes ses forces. Alors, quand la Bible parle, par exemple, du petit enfant qui met sa main sur le nid de cobra, ou le lionceau qui cohabite avec le petit bœuf, etc., on a une vision de paix dans le monde animal et de paix entre les êtres humains et notre maison commune qui n'existe pas, mais qui est une utopie, qui est quelque chose qui est espéré. C'est de l'ordre de la messianité.
Oui, c'est comme dans l'Apocalypse, on dit qu'il y aura un temps où il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes, toute larme sera effacée.
Exactement.
Donc ce sont des images, mais qui ne nous empêchent pas de travailler dans le monde. Attention,
non,
parce que...
Au contraire, c'est pour ça qu'ils viennent en troisième lieu. Il y a d'abord des événements qui se produisent, qu'il faut interpréter. Il faut énormément de compétences pour gérer les problèmes, mais aucune compétence peut gérer les problèmes fondamentaux de l'être humain, c'est-à-dire finalement, on le sent bien maintenant, une sorte de rencontre paisible entre la création et les êtres humains et une justice, et dépasser la mort. Et c'est là où intervient cette image extraordinaire de la Bible, qui est celle déjà qu'on trouve dans le premier récit de la création. Le septième jour, Dieu se repose et regarde ce qu'il a fait. C'est l'image du repos éternel, d'une réconciliation, d'une justice définitive, etc.
Et donc ça, c'est pas à notre portée, c'est donné ça.
C'est donné.
Mais pas tout de suite.
Donné comme une promesse. Donner, pourrait-on dire, et espérer, déjà avec la création, si Dieu crée la création vraiment comme bon, ce n'est pas, comment dire, une affaire tragique, même s'il y a beaucoup de tragédies, mais il y a une espérance fondamentale de l'accomplissement de la création qui est devant nous, et c'est pour ça qu'on a cette magnifique construction de la Bible entre la Genèse et l'Apocalypse, entre Alpha et Oméga.
comment garder l'espérance aujourd'hui,
oui,
quand on n'appartient pas à l'Église? Parce que la vision que vous décrivez est celle d'une terre nouvelle, de cieux nouveaux qu'on retrouve dans l'Apocalypse. Ça appartient bien au corpus chrétien.
Pour pas ceux qui... uniquement, peut-être. Je dirais, on peut dire aussi, évidemment, nous partageons cette vision avec le judaïsme. Même s'il y a des nuances et des différences importantes, il y a des conflits entre les visions, nous partageons aussi cette vision eschatologique avec l'islam aussi. Et quand nous regardons aujourd'hui les mouvements alternatifs, le convivialisme, etc., nous rencontrons beaucoup de gens en dehors de nos traditions chrétiennes, monothéistes, spirituelles, juives, musulmanes, etc. Beaucoup de gens qui nous disent il faut une vision de la réconciliation entre l'homme et la création pour pouvoir maintenir la terre vivable, habitable pour les générations futures. Et là, il y a un commun spirituel, quelque chose de commun dans l'humanité qui est en train de se constituer. La COP 21 en est un signe tout à fait actuel.
Donc, nous retrouvons cette idée que le spirituel est bien au-delà d'une religion en particulier, mais que ce désir d'avancer et d'accueillir la vie, il dépasse complètement les religions.
Oui, bien sûr, les religions, et c'est un bien de l'humanité, un bien qui dépasse l'humanité. La vie est spirituelle ou il n'est pas, hein? Et je pense que la force de la tradition biblique et chrétienne, c'est d'avoir dit cela. Le christianisme n'accapare jamais le spirituel, mais il renvoie, c'est le décentrement dont nous parlons, il renvoie à un spirituel, je dirais, caché, c'est les nappes phréatiques de l'humanité, pourrait-on dire. Et nous sommes un peu l'Église, le sourcier, qui tente continuellement dans nos conversations spirituelles d'accéder, de faire accéder à ces nappes phréatiques de l'humanité.
Un grand merci à vous, Christophe Théobald, d'être venu.
Merci à vous aussi, Béatrice.
Nous parler de cette parole de Dieu. Votre livre s'intitule « Parole humaine, parole de Dieu ». Il est paru chez Salvator. Merci à Pierre-Henri Paget à la technique.
Au revoir.